Le grand menu de Corinne Hooks sort aux éditions de l'Olivier, c'est son premier roman, mais Corinne Hooks avait déjà approché la littérature en tant que chroniqueuse.
Aujourd'hui, elle parle de l'enfance, même si cet enfant par moment n'a pas vraiment d'âge. Elle parle des parents qui ne sont pas toujours perçus par cette petite fille comme ses parents. Beaucoup de thèmes sont abordés dans ce premier roman. En voilà un, celui par exemple de l'enfant qui ne correspond peut-être pas à ce qu'on aurait souhaité, tout à fait à ce qu'on avait imaginé ou espéré.
C'est vrai que les parents de ce livre n'ont pas du tout la petite fille qu'ils espéraient. D'ailleurs, ils le font bien sentir, ils le lui disent bien. Mais je crois que, de toute façon, avoir une attente à propos de quoi que ce soit et contient toujours le ferment d'un drame. Et quand ça se porte sur un enfant, c'est évidemment terrible et c'est meurtrier pour elle. Quand on a un programme sur quelqu'un, sur un enfant, du coup, on ne l'écoute pas et on se substitue à ce qu'il est. Alors voilà, les parents de cette petite fille veulent la faire entrer dans un moule et ils veulent la faire fonctionner dans leur façon de voir ce qu'ils attendent d'un enfant. Et je crois que, du coup, ils la privent complètement de son accès à la possibilité d'être sujet, à ressentir les choses elle-même, à partir d'elle-même.
On peut dire que c'est une petite fille qui... Vous dites une petite fille, on l'imagine préadolescente, mais c'est en même temps une petite fille qui n'a pas vraiment d'âge et aussi une petite fille qui ne vit pas dans une époque précise.
Elle n'a pas d'âge, peut-être. Oui, c'est une enfant quand même. Elle n'a pas d'époque, elle n'a pas non plus de nom. En effet, elle ne parvient pas réellement à se situer, que ce soit dans un lieu ou dans un temps. Le seul lieu connu, c'est cette maison. Le seul univers connu, c'est celui que lui imposent ses parents. Et d'ailleurs, elle ne parle pas facilement à partir d'elle-même, à partir de son ressenti, à partir de ce qu'elle perçoit. C'est très difficile pour elle, en tout cas, de parler d'elle-même. Elle parle d'elle-même, mais à travers les objets, à travers la poussière, par exemple, qui est toujours fouettée, qui ne peut jamais se poser nulle part, ou à travers les dalles de travertin du hall d'entrée sur lesquelles tout le monde marche. Elle parle d'elle-même par métaphore. Aussi, par exemple, des huîtres qui sont fermées, closes sur elles-mêmes, à propos des méduses au bord de la mer, à propos des coquillages, de tout ce monde clos et qui garde sa parole enfouie.
Beaucoup dans ce livre, bizarrement, qui manque parfois d'humanité dans les rapports, de gestes d'attendrissement envers cet enfant. Et on a le sentiment qu'il y a un décalage entre les gestes que l'enfant prend en compte et qu'il devrait recevoir, entre les gestes que le parent donne et le geste que l'enfant ressent, la manière dont il les ressent.
Je crois qu'entre ce qui est donné et ce qui est reçu, il y a toujours pour tout le monde un décalage, a fortiori dans le cas de cette famille-ci, où les parents ne sont pas du tout à l'écoute de l'enfant. Donc, ils supposent que tout autour d'eux fonctionne comme eux-mêmes fonctionnent. Ils sont tournés vers eux-mêmes, ils sont très narcissiques. Et ils n'imaginent pas que la petite fille qu'ils élèvent puisse avoir d'autres émotions, d'autres sensations que les leurs. Pour eux, ils vont bien, elle va bien. Elle n'a pas, d'ailleurs, elle-même n'a pas accès à son propre ressenti. Elle ne se perçoit pas elle-même comme un être autonome. Ils l'ont complètement liée à eux et ils la font fonctionner dans leur système à eux.
Il y a trois personnages dans ce livre, le père, la mère, cet enfant. Alors on va parler de la mère, qu'on peut qualifier de nouvelle bourgeoise, assez active, il faut foncer. C'est surtout quelqu'un qui a envie de correspondre à ce qu'est l'air du temps.
Oui, peut-être à l'air du temps et aussi à son besoin à elle de toujours être dans la réponse. C'est une femme hyper active, c'est une femme qui travaille, mais aussi dans tout ce qui concerne la vie, les émotions de la vie, elle ne tient compte des questions que pour autant que ce soit des questions auxquelles elle puisse apporter une réponse. Ce à quoi elle ne peut pas apporter de réponse n'existe pas, ce qui est de l'ordre de l'affectif est nié. Je crois que ça l'insécuriserait beaucoup de ne pas avoir la possibilité de résoudre et de refermer la question.
En revanche, il y a un engouement pour sa fille au moment où elle peut la façonner un peu à son image, la considérer comme une poupée parce qu'à la clé, il y a un concours, elle doit être belle, elle doit être parfaite. Et là, on sent une montée d'intérêt.
Oui, en effet, à un moment donné, cette mère va préparer sa fille pour un bal costumé. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à ce moment-là pour la demande de la petite fille elle-même. La petite fille rêve de se voir en gitane ou de se voir revêtue d'une jupe à volant. Mais la mère ne répond pas à cette attente-là. Elle a décidé que la petite fille serait déguisée en violette impériale, dans les tons de mauve, qui sont ceux qu'elle aime beaucoup. Et elle vise surtout, dans cette démarche, l'obtention du prix qui sera décerné au plus beau costume de ce bal costumé. Je crois qu'elle ne perçoit pas sa fille autrement que comme un objet qu'elle va revêtir de son mieux. C'est un porte-manteau, en fait. C'est un mannequin pour elle. D'ailleurs, quand elle habille sa fille de façon en général, je crois qu'il y a une phrase qui dit « Maman m'habille en regardant ma robe. » Elle fait un beau nœud bien serré à la taille et ferme les boutons. Donc, c'est la robe qu'elle voit, ce n'est pas l'enfant.
C'est une petite fille qui n'a pas vraiment une vision idéalisée de sa maman.
Non, je ne crois pas qu'on puisse tout à fait dire ça. La petite fille a une véritable adoration pour sa mère. Seulement, cette mère n'y répond pas. La petite admire sa mère, mais ce n'est pas du tout réciproque. Par exemple, elle dit « Maman a dans les yeux quelque chose de très beau, une couleur mouillée, un beau bleu d'aquarelle. » Mais ces yeux bleus de sa mère ne se posent pas sur elle. Elle dit que parfois, elle croit que ce sera possible quand les yeux de sa mère ne songent plus à rien qu'à être des yeux bleus. Mais ensuite, ils durcissent, ils redeviennent sévères, exigus, verrouillés. Et je sais qu'ils ne me veulent pas, dit-elle. Donc la petite fille est obligée, pour connaître un relatif contact avec sa mère, d'aller chercher la présence de cette mère et son odeur dans les garde-robes. Et aussi dans le peignoir de bain qui pend dans la salle de bain. Et elle enroule autour d'elle les manches de ses vêtements, comme elle voudrait que le fassent les bras de sa mère.
Anya Garbarek.
Le grand menu aux éditions de l'Olivier, c'est le roman de Corinne Hooks, son premier. Et voici sa deuxième interview. Dans l'ordre, il y a eu Bernard Pivot à Bouillon de Culture et puis Christine Pachard dans Systole.
Oui, Bernard Pivot a beaucoup parlé d'enfance, du regard que l'enfant porte sur sa vie. Il a lu beaucoup d'extraits de ce livre parce que c'est finalement la meilleure façon d'en parler. parler, pardon. Alors, au sujet de la mort et de cette mère, Corinne Hooks dit la mort, elle n'y pense pas, ils ne vont pas mourir, ni elle, ni papa. Elle le promet, elle en est sûre, ils sont jeunes et beaux, leur vie, ils l'appellent leur belle vie, ils la bâtissent sur un roc, mourir ne les intéresse pas, d'ailleurs c'est quelque chose pour rire, c'est seulement pour jouer, on tire sa révérence, on passe son arme à gauche, on ferme son parapluie, mais on ne meurt pas. Maman a beau dire, elle et papa surissent, ils rancissent comme tout le monde, comme le poulet et le lait dans le frigo, papa rétrécit, il se dissout, il s'amenuise, maman enfle, elle gonfle. Alors Corinne Hooks, à propos de cette obsession de la mort chez les parents, sont-ils vraiment prêts à voir leur reflet vieillir dans les yeux de cette petite fille qui est finalement un miroir?
C'est sûr que quand on a un enfant, on passe soi-même à la génération suivante. Mais je ne suis pas sûre que cela touche beaucoup, finalement, les deux parents de cette histoire, qui sont restés deux grands adolescents égoïstes et occupés de leur plaisir et de leur confort à eux, et ne se mettent pas vraiment en question. Ils ne sont tournés que vers eux-mêmes, en fait. Ils ne se doutent même pas qu'ils ont mis au monde une personne. Ils la possèdent tout simplement, comme ils possèdent tout autour d'eux. C'est fait pour eux, c'est à leur service, l'enfant est à leur service, elle doit servir une image d'eux-mêmes. Le besoin de procréer, de perpétuer et la capacité d'élever des enfants sont deux choses très différentes, mais c'est vrai que la peur de mourir les habite. Les habite tellement même qu'ils se ferment complètement à l'idée et qu'ils la nient presque.
Alors on a parlé de la mère, on parlait du père un peu plus longuement, c'est un père qu'on peut dire autoritaire, une autorité vraiment présente dans son comportement et c'est aussi quelqu'un qui aime prendre en faute, non ?
Oui. En fait, quand il peut prendre la petite fille en faute, il détient un avantage sur elle. Il a l'occasion à ce moment-là et l'excuse de pouvoir la punir. Et c'est un père assez punisseur.
Punisseur et quelqu'un qui aime que cette punition dure, enfin, que la culpabilité reste à l'intérieur de la relation, qu'on sente longtemps qu'on est fautif et qu'on est puni pour ça. Et...
Oui, en effet, le père ignore l'indulgence. C'est une façon pour lui de garder la petite fille sous sa coupe, constamment de la lier à lui. À un moment donné, d'ailleurs, la petite fille explique comment elle est punie, et jamais le père, quand elle va après demander pardon, ne lui accorde ce pardon. Elle dit, néanmoins, tout reste en l'état, tout est prêt à servir. Je sors de punition sans être délivrée. Papa conserve les vieux reproches et les rancunes. Nous ne sommes jamais quittes, mes dettes s'accumulent. Donc la petite fille est toujours en situation de devoir continuer à payer à ce père. Elle lui est toujours redevable.
Vous décrivez aussi très bien la colère.
Oui, ça c'est une... La colère peut s'abattre sur la petite fille instantanément et... Sans prévenir, en fait, oui. Le père peut changer d'humeur à tout moment et la petite fille doit constamment veiller à ça, veiller au grain en quelque sorte, oui.
C'est en revanche quelqu'un qui est très très indulgent envers lui-même. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui dit « Papa a beaucoup de tendresse pour ses pensées ».
Ah oui, pour lui, oui, il s'adore en fait. Il s'écoute lui-même d'une oreille amoureuse, dit Jeanne Endroit. C'est à peu près ça, lui-même s'aime beaucoup. D'ailleurs, quand il exige de la petite fille la perfection même, lui-même, à son propos, a des proverbes qui lui accordent que l'erreur est humaine, qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que tout le monde peut se tromper. Il a toujours pour lui de bonnes excuses, mais pour la petite fille, il exige la perfection. Et comme elle le dit, je suis un spécimen à l'étude, une sorte de prototype. Papa me perfectionne, il m'apporte des amendements. Donc voilà, il est toujours à vouloir le maximum pour elle, à vouloir plus que ce qui est humainement possible, je crois.
C'est quelqu'un aussi d'inattendu dans ses réactions. Et alors, sans obsession pour le sujet, on soupçonne à tout moment un geste incestueux qui n'arrive jamais.
Oui, il n'y a pas vraiment de passage à l'acte incestueux, mais la petite fille participe aux rencontres érotiques de ses parents, qui se passent à table au moment du dessert. Elle est sommée de rester là devant son assiette qu'elle doit finir et donc de regarder. Elle participe à ce moment-là non pas par le geste, mais par le regard en quelque sorte. C'est une sorte de passage à l'acte du regard, si on veut.
Je trouve qu'il y a aussi, Corinne Hooks, un paradoxe dans le fait qu'on apprend à cette petite fille que le danger est à l'extérieur et qu'à l'intérieur, il n'y a pas un réel danger, mais il n'y a pas vraiment de bonheur non plus.
Oui, les parents font peser, en fait, toutes leurs angoisses sur la petite fille. La maison qu'ils ferment à double tour est le reflet d'eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes, en fait, qui se veulent tout à fait fermés, hermétiques, sans faille, sans questionnement, sans incertitude. Et la petite fille, qui vit en vase clos avec eux, est prise dans ce triangle relationnel sans aucune autonomie par rapport à eux, et elle se trouve là dans un univers réellement menaçant parce qu'elle y est soustraite à sa vie, à sa propre vie, à son propre ressenti.
Alors je vous propose de terminer par cette affirmation quand elle dit « ce ne sont pas mes parents ».
C'est ce qui la sauve, hein. Ce qui la sauve, c'est ça, c'est ce fantasme-là, que ses parents ne sont pas ses parents. Les deux qui sont dans la maison sont des usurpateurs à ses yeux. Et elle joue à croire qu'il existe de vrais parents ailleurs. Donc dans cette histoire qu'elle s'invente et dans cette symbolisation, il y a quelque chose qui lui permet de survivre. À ce moment-là, elle crée autre chose que ce qui est là, que ce qui lui est donné, et elle refuse ce qui est là. Elle cherche autre chose qui n'est pas là. C'est peut-être un peu ça l'écriture, je crois.
Le Grand Menu, premier roman de Corinne Hooks, s'est sorti aux éditions de l'Olivier.